Seigneur. Donc sois le bienvenu aussi.
Merci Ruben. Bonjour à tous, content de vous voir et de pouvoir ouvrir la Bible ensemble. Alors n'hésitez pas à prendre une Bible, il y en a sur le côté là-bas, si vous voulez avoir les mots devant vous qui vous aideront à suivre ce que je vais dire. Dans la ville européenne d'Athènes, en Grèce, un jour un homme a eu une rencontre avec les philosophes et les penseurs de son époque. Et face à ces penseurs, ces gens très intelligents, il leur a parlé en parlant d'une chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient beaucoup de choses, mais quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, quelque chose qu'ils ignoraient. C'était l'identité du vrai Dieu, le Dieu vivant. L'homme leur a expliqué que finalement, Dieu, il était très différent des autres divinités qui sont adorées dans les temples et qui sont façonnées dans des pierres, dans des sculptures. Le Dieu vivant n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines. Il n'habite pas dans des temples, des maisons faites par la main de l'homme. C'est lui qui nous a fait et qui nous a accordé la vie et l'être, le mouvement. Il a décidé où nous allons vivre. En parlant de ce Dieu qui était très différent de nous, il a dit que maintenant Dieu a fixé un moment où il va juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Ce qu'il annonçait ce jour-là, il s'agit de Paul, l'apôtre qui faisait ce message, c'était qu'il viendra un jour où pas seulement quelques personnes, mais toute personne qui a vécu sur terre, tout être humain, sera jugé par Dieu. Et Dieu a nommé comme juge son propre fils, Jésus-Christ. Et la preuve que Jésus va juger le monde, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. En entendant cela, certains se sont moqués de lui, pensaient que c'était pas sérieux. Certains ont cru, mais d'autres se sont moqués de lui. Et en fait, c'est comme ça, quand nous parlons de choses sérieuses, parfois les gens se moquent et ne prennent pas cela très au sérieux. Mais nous devons le prendre au sérieux. On a tous entendu des blagues, j'imagine, sur l'au-delà, avec Saint-Pierre aux portes du paradis. Parfois, ces blagues nous font rire parce qu'elles montrent l'absurdité de notre vie humaine avec une autre perspective. Mais, je ne vais pas vous raconter une blague ce matin, la Bible nous dit la réalité, la sobre réalité. Ce n'est pas une blague, il n'y a pas une discussion avec un ange ou avec Saint-Pierre, Simon-Pierre dans la Bible. La Bible déclare plutôt comment va être ce jugement. Et la réalité que nous allons voir aujourd'hui est que Jésus-Christ est désigné comme juge, et parce que c'est lui qui va donner son verdict sur ma vie, sur ta vie, notre vie, et que son verdict sera valable pour toute l'éternité, on a intérêt à savoir quel sera son verdict sur nous. Je veux savoir ce qu'il va dire. Dieu jugera le monde avec justice. Ce même message qui a été dit par Paul aux Grecs et aux philosophes, il l'a écrit aussi à des gens d'une autre métropole, la capitale de l'Empire romain, à Rome. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ici, dimanche après dimanche, la lettre de Paul aux Romains. On arrive au chapitre 3 aujourd'hui et on commence à comprendre que Dieu est en colère. Et aussi à travers les différentes phrases que nous avons vues jusque-là, nous avons compris pourquoi il est en colère. Dieu est juste et nous sommes injustes. Mais aujourd'hui, en quelque sorte, on va répondre à la question, est-ce que son jugement sera juste? Lorsque Dieu jugera le monde à travers Jésus-Christ, est-ce que son jugement sera juste? Et nous allons voir deux parties de la réponse. Une partie qui est en Dieu, décrit son caractère, et une partie de la réponse qui se trouve en nous aussi, en voyant qui nous sommes et comment nous ressemblons au reste de l'humanité. Alors en écrivant ces lettres, juste avant de lire cela, je veux que vous compreniez qu'en fait, Paul, il avait beaucoup l'habitude de questions que les gens lui posaient. Et donc, en écrivant, il écrit déjà les questions en anticipant ce qu'ils vont dire. C'est pourquoi il y a des questions dans notre lecture. Je vais lire Romains 3, verset 1 à 9. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte le bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que les juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Tout d'abord, le verdict de Dieu est juste. Le verdict de Dieu sur notre vie est juste. Alors Paul, qui écrit ces lignes, comme je l'ai dit, avait beaucoup débattu, il connaissait les répliques. Il s'attendait à ce qu'il y ait une certaine réaction de la part de ses lecteurs parce qu'il avait déjà eu cette discussion de vive voix avec d'autres personnes. Et il venait juste de dire au chapitre 2, à la fin du chapitre, que en fait, être juif, c'est quelque chose qui est intérieur. Ce n'est pas une question d'arrière-plan ou de généalogie, mais on peut être juif intérieurement. Ou que la circoncision n'est pas physique, mais c'est celle du cœur, lorsque Dieu change notre cœur intérieurement. Et du coup, début du chapitre 3, il anticipe que quelqu'un va dire bah « Alors à quoi ça sert d'être juif ? Quelle est l'utilité, quel est l'avantage d'être juif ? Si finalement tu es en train de dire que ce n'est que quelque chose d'intérieur, qu'est-ce que ça sert à être quelqu'un d'arrière-plan juif et qui est passé par le judaïsme, dans la synagogue, etc., dans son enfance ? En fait, il va dire « Oui, il y a un avantage ». L'avantage, c'est pour ces gens-là, c'est qu'ils ont la Bible. Ils ont été éduqués selon les promesses de Dieu. Ils ont entendu les promesses de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Les paroles révélées de Dieu ont été confiées à ce peuple. Oui, mais en même temps, tu as dit que certains n'ont pas cru. Et donc, si certains n'ont pas cru aux promesses de Dieu, est-ce que ça veut dire que Dieu va laisser tomber ses promesses? Comme il le dit, si les gens sont infidèles à leur promesse de suivre Dieu en tant que juif, est-ce que ça veut dire que Dieu va être infidèle à ses promesses de sauver des juifs? Et il dit non, certainement pas. Certainement pas. Regardez le verset 4. Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. On va revenir à ce verset parce que c'est la clé, mais Dieu est vrai. Il est en train de dire, tout ce que Dieu promet de faire, il le fera. Lorsque Dieu dit quelque chose, c'est vrai, ça se réalise, il tient ses promesses, il dit des choses fidèlement, il n'est pas fourbe, il est honnête. Et Dieu est juste, ce qui veut dire qu'il triomphe dans son jugement. L'idée qu'il y a derrière ça, cette phrase-là, tu triomphes dans ton jugement, c'est que quelqu'un puisse dire, je vais faire un procès à Dieu. C'est fou, évidemment, de penser comme ça. Mais des gens qui disent, non, moi je vais juger qu'en fait, Dieu, il est injuste. Je vais faire un tribunal, je vais amener une accusation contre Dieu et je vais dire, Dieu est injuste. Commencer ce tribunal-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va triompher. Vous allez perdre votre tribunal. Vous allez perdre votre procès. Parce que Dieu triomphe lorsqu'il est jugé. Il montre vraiment qu'il est au-dessus de tout reproche, entièrement juste, incorruptible. Alors après avoir établi ça, il va commencer à avoir une petite discussion. Et c'est une discussion un peu étrange pour nous, parce qu'il dit, il parle à la manière des hommes. Donc on sait que quand Paul écrit, il écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit, il est en train d'écrire les paroles de Dieu, mais parfois en fait ce qu'il dit, ce n'est pas ce que lui pense, mais ce que les autres pensent. Et c'est ce qu'il fait au verset 5 par exemple. Si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes, donc il donne un argument humain. Verset 7, il continue. Si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi encore jugé comme pécheur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Récapitulons. Mon injustice montre que Dieu est juste. Parce que mon injustice est punie par un Dieu juste. Donc mon mensonge montre combien Dieu est vrai et juste. Quelqu'un réfléchit à ça et il se dit, quelque part en fait, je suis en train de faire du bien à l'image de Dieu comme un Dieu juste en étant moi-même si mauvais et si injuste. Parce que je montre combien il est juste quand il me punit. Un étrange argument, bien entendu. C'est comme un étudiant qui est tellement indiscipliné qu'il se fait renvoyer des cours. Il est envoyé en retenue. Et puis finalement, il est tellement indiscipliné et mauvais qu'il est renvoyé de l'école. Puis chaque année, il recommence la même chose, la même catastrophe. Il est renvoyé de l'école chaque année. Et puis il dit, en fait, le préfet de discipline de cette école et l'école en général a une excellente réputation pour sa discipline. Et en fait, c'est grâce à moi. Parce que moi, j'ai été un si mauvais élève et parce que j'ai été renvoyé tant de fois, j'ai pu montrer combien ils sont stricts par rapport à la discipline dans cette école. Mais non, c'est fou, c'est idiot ce genre de raisonnement. En fait, c'est condamnable, dit Paul. Dieu est juste et notre injustice montre la différence entre lui et nous. Mais notre injustice ne nous excuse pas simplement parce que Dieu est juste. On ne doit pas faire le mal, plus de mal, pour que le bien puisse résulter de ce mal. C'est important qu'on réfléchisse à cela parce que quand il évoque cela, il est vraiment en train de dire, verset 8, que c'est une calomnie. Quand nous pensons à comment nous présentons notre foi, disons, Jean, peut-être que vous avez eu ces conversations déjà, et vous expliquez un petit peu comment ça marche, le pardon de Dieu, et tu leur dis, en fait, moi, mes fautes, elles sont pardonnées. Et il dit, alors, ça veut dire que tout le mal que tu as fait de ta vie, c'est juste pardonné par Dieu? Tu dis oui, le mal que j'ai fait par le passé, le mal que je fais aujourd'hui, même le mal que je ferai demain, pardonné par Dieu, simplement. Alors ils réfléchissent à ça et ils disent, ah alors, mais alors tu vas faire autant de mal que tu peux alors, parce que tu vas juste continuer à faire plein de péchés pendant ta vie, parce que tu sais que c'est pardonné d'office. Et ça en fait c'est une calomnie, dit Paul. C'est calomnie parce que non, ce n'est pas du tout comme ça qu'on veut vivre, en vivant comme le diable, simplement parce que nous sommes pardonnés. Au contraire. Donc dans ces versets, on est en train de comprendre vraiment à quel point Dieu donnera un verdict qui est juste, lui qui est le juge de l'humanité. Il donnera son verdict avec justice. On revient au verset 4 qui dit qu'il sera trouvé juste dans ses paroles et triomphera dans son jugement. Imaginez le moment du verdict. Quand Dieu nous ramènera à la vie, ceux qui sont morts par le passé, les hommes et les femmes de toute l'histoire, les jeunes, les vieux, les personnes de toutes les nationalités, et que Jésus lui-même donnera son verdict en tant que juge. Il donnera son verdict à un homme juif. Tu as connu les 10 commandements. Tu as été éduqué pour connaître la loi morale de Dieu, mais tu n'as pas obéi aux 10 commandements. Tu es donc coupable et condamné. Et le juif ne pourra que dire, en fait, tu es juste dans tes paroles. Ce que tu dis est juste. Ce que tu dis est vrai. Et un homme non-juif qui pourra dire, moi, je n'ai pas connu les 10 commandements, mais Dieu lui dira, mais tu as une conscience. Ta conscience te montrait intérieurement qu'il y avait certaines choses qui étaient bonnes à faire et d'autres qui étaient mauvaises à ne pas faire. Est-ce que tu as pratiqué le mal ? Oui, il devra reconnaître qu'il est coupable lui aussi. Il devra faire face à l'éternité sans Dieu. Ça peut paraître long, n'est-ce pas, l'éternité, comparé à la vie, combien la vie est courte. Mais vous savez, ça ne prend que 2 secondes pour tirer une gâchette. Mais on peut être 20 ans en prison à cause d'un meurtre. La punition de Dieu est selon son estimation de notre culpabilité et de notre mal. Et il n'y a pas de repos pour le méchant. Même si on dit souvent qu'il repose en paix, il n'y a pas de repos pour ceux qui meurent loin de Christ et en étant toujours hostiles à Dieu et étant coupables devant Dieu. Et puis peut-être une femme de l'église se présentera en disant « Mais moi j'ai été dans une église baptiste, savez-vous, j'étais dans une église évangélique. » J'étais là avec mes enfants tous les dimanches. Mais elle a dit des mensonges, ou elle a dit des calomnies, le genre de choses qui est condamné ici. Ses œuvres la condamnent elle aussi. Et de bonnes œuvres qu'elle pourrait faire ne seront pas assez pour la justifier, nous dit le verset 20. Donc chacun, que nous soyons juifs ou non-juifs, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons des hommes modernes ou des philosophes du 1er siècle, ou des Romains, nous reconnaîtrons que le verdict de Dieu sur notre culpabilité est juste. Tu es justifié dans tes paroles. Et ceux qui accusent Dieu d'être injuste ont tort. Nous verrons que le jugement de Dieu est juste. Donc si nous regardons le caractère de Dieu, l'être de Dieu, nous ne pouvons pas l'accuser d'injustice, nous sommes face à un Dieu juste. Mais l'autre raison pour laquelle le verdict de Dieu sera juste est que la culpabilité est universelle. La culpabilité est universelle. Nous sommes injustes, nous dit ce passage. Nous sommes tous injustes. Il parle des Juifs et des Grecs, verset 9. Tous ceux qu'il connaissait. Des personnes des différentes nationalités, différentes civilisations, différentes cultures, coupables. Remarquez comment il le dit, différentes fois, personne n'est juste, aucun n'est juste, pas même un seul. C'est tellement différent parce que nous avons tendance à dire, et n'est-ce pas comme ça que nous parlons, « Ah mais elle, c'est une fille vraiment sympa ». Lui, c'est un gars vraiment bien. Nous avons tendance à utiliser ce genre de mots, mais en fait, la Bible dit non, aucun n'est juste. Le moine qui est dans son monastère en train de prier, la gentille dame qui est peut-être notre voisine, un infirmier. J'ai essayé de penser à ceux qui ont le profil que j'admire le plus, c'est les personnes qui s'occupent des personnes handicapées, des jeunes handicapés. Même quelqu'un comme ça n'est pas juste. Pas un seul n'est juste. Quelqu'un dira, oui, je ne suis peut-être pas juste ou parfait, mais je suis intelligent, je suis informé par rapport à Dieu et par rapport à sa volonté. Il dit non, en fait. Regardez le verset 11. Aucun n'est intelligent. Cette sagesse intelligente, spirituelle. Moi, peut-être que je n'ai pas de l'intelligence, mais je cherche Dieu. Je suis quelqu'un qui cherche, je suis quelqu'un de profondément spirituel. Et non, personne ne cherche Dieu. C'est comme un jeu de cache-cache où Dieu veut se faire connaître à nous et nous nous enfouissons. Les gens qui disent qu'ils cherchent Dieu souvent sont en train de chercher autre part, quelque chose d'autre que Dieu pour remplacer Dieu, plutôt que de chercher vraiment à connaître le vrai Dieu. Tous se sont détournés, verset 12. C'est vrai pour eux, c'est vrai que pour vous, c'est vrai pour moi. Et ainsi nous avons perdu notre valeur, notre dignité. Il dit, ils se sont pervertis, ils ont perdu leur valeur, leur dignité. Personne ne fait le bien. Et puis après, il va décrire tout le mal que nous faisons. Il parle en fait des différentes parties du corps. Regardez ces versets, vous voyez que la bouche est mentionnée, gosier, leur langue, les lèvres, sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche, leurs pieds, et puis à la fin, verset 18, leurs yeux. Ça veut dire que ce n'est pas une partie de nous-mêmes qui fait le bien ou qui fait le mal. C'est tout notre être qui est impliqué. Le mal, en fait, a infecté tout notre corps. Quand nous lisons cela, c'est peut-être un peu choquant de lire ces propos, parce qu'ils disent, voilà, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction, le malheur manquent leur passage. Et on se dit, mais en fait, ça ressemble à des hooligans. Ça ressemble pas à les gens de mon club de pétanque ou à ma bibliothèque. Mais nous avons tendance, n'est-ce pas, à voir les gens sans voir vraiment le mal qu'ils font. Bien sûr, il faut comprendre que l'enseignement de la Bible, ce n'est pas que nous faisons tous autant de mal que nous le pouvons. On ne fait pas tous tout le mal que nous pourrions faire tout le temps. En fait, par la grâce de Dieu, il nous restreint pour que nous ne fassions pas ce que nous ferions si personne ne nous regardait, ou s'il n'y avait pas de police, s'il n'y avait pas de loi, il n'y avait personne pour nous contrôler. Je pense que ce serait beaucoup pire. Mais Dieu nous restreint. Parfois, en fait, chapitre 2, verset 14 dit que nous faisons le bien. Donc on n'est pas en train de dire que personne ne fait rien de bien, mais simplement que le bien qu'ils font n'est pas assez parce que finalement nous sommes infectés par le mal qui nous touche tous profondément. Mais aussi, si nous regardons les détails, ce n'est pas que des hommes violents ici. La langue de vipère, est-ce qu'on n'a pas tous expérimenté ça? Les gens disent des choses vraiment blessantes. Elles se moquent de nous. Nous aussi, nous avons dit des choses mauvaises envers les autres. Leur langue, leur bouche, pardon, verset 14, est pleine de malédiction et d'amertume. Ô mon Dieu, ou nom de Dieu. Ce sont des choses à dire avec respect, avec crainte de Dieu. Pas simplement parce qu'on est fâché, parce que quelqu'un a lâché notre hamburger dans le resto. Mais en fait, il ne parle pas avec révérence, on ne parle pas avec révérence de Dieu, parce que verset 18, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Ces différentes phrases qui sont en italique dans la Bible sont en fait des citations de l'Ancien Testament. Et en les mettant ensemble, non seulement il fait le profil un petit peu du pécheur avec toutes les différentes parties du corps, mais il montre que des personnes qui avaient cette loi, les Juifs, étaient néanmoins désobéissantes à la loi de Dieu. Et le résultat, en fait, au verset 19, afin que, donc ce que nous dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi, c'est-à-dire les Juifs, qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Coupable devant Dieu. Toute bouche fermée, aucune excuse, aucune défense. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour se défendre devant un Dieu juste comme cela? Ben, certains trouvent refuge dans un groupe d'amis. Ils se disent, voilà, je suis aimé parmi eux, et quand je suis avec eux, c'est comme si ils me considèrent comme une bonne personne. Je me sens un peu mieux vis-à-vis de moi-même à cause de mes amis. D'autres cherchent l'admiration des autres pour leurs dons ou pour leur beauté extérieure. Mais le problème demeure, ce n'est pas une question de réputation ou d'apparence, c'est une question de cœur, n'est-ce pas? Le problème est à l'intérieur de nous. Comment pouvons-nous nous débarrasser de cela? Eh bien, je veux vous donner une petite pensée sur nous et puis une grande pensée sur Dieu. Une petite pensée pour nous, c'est si nous prenons au sérieux ce message, peut-être que notre réaction va être de dire « D'accord, j'ai compris, je ne suis pas une très bonne personne. Je sais que Dieu pourrait m'accuser de différentes choses que j'ai dites ou faites de mal, ou pensées de mal. Mais maintenant, je vais vraiment faire un effort. Vous allez voir, en 2026, je vais être quelqu'un de différent. Je vais vraiment être sérieux dans ma foi, sérieux vis-à-vis de Dieu. Je vais faire plein de bien autour de moi. Je vais donner des dons, je vais m'occuper des pauvres, je vais prendre soin des démunis. Je vais vraiment faire un effort. Vous allez voir. Mais si tu fais toutes ces bonnes œuvres que tu peux, ça n'a pas changé le verdict de Dieu sur ta vie. Je sais ça parce qu'au verset 20, il dit « Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. » C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Plus tu essayes de garder les 10 commandements, de faire du bien, plus tu te rends compte à quel écart il y a entre toi et la loi de Dieu. Tu ne peux pas changer le verdict de Dieu. Blaise Pascal, le philosophe et mathématicien français, a dit que nous devons ressentir notre misère avant de pouvoir apprécier la solution qui se trouve en Christ. Parce que oui, il y a une solution. Mais d'abord, parfois, il faut toucher le fond. D'autres personnes, d'autres chrétiens qui nous ont précédés, tels que Martin Luther, moine catholique, vraiment engagé, sérieux dans sa foi, mais dans la misère quand il a compris son péché devant Dieu, en disant « Dieu est juste et moi je suis misérable ». Spurgeon, le grand prédicateur du XIXe siècle, a passé 5 ans de sa vie dans la misère quand il s'est rendu compte combien il était pécheur. Alors il ne faut pas passer 5 ans à être misérable, c'est trop long. Mais il faut passer quand même par cette case où on se dit « je suis démuni ». Je ne suis pas quelqu'un de juste, je suis comme ces versets me décrivent, je suis injuste, avant d'apprécier pleinement la solution que Dieu nous offre gratuitement. Mais je veux terminer ce message avec une grande pensée sur Dieu. Que cette pensée soit comme l'aube après une nuit sombre. Et c'est ceci. Mais Dieu a pitié de nous. La culpabilité est universelle, elle est chez moi, chez vous, chez chacun de nous. Mais Dieu a pitié de nous. Il y a une église en Amérique qui est devenue assez célèbre il y a quelques années, qui s'appelle l'église baptiste de Westboro. Ce n'est pas l'église de Marlboro, ça c'est des églises pour fumeurs, c'est l'église de Westboro. Et cette église est devenue assez célèbre parce que ça fait le tour des infos, des réseaux, etc. Leur politique était d'essayer de publier, en écrivant des grandes pancartes et de se mettre en public à des démonstrations, avec des grandes pancartes sur Dieu. En soi, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Mais c'était assez différent des autres slogans sur Dieu qu'on voit. Je ne sais pas si vous avez vu cela, vous hochez la tête si vous connaissez un peu cette église, non, pas vraiment. Donc l'église de Westboro, ils ont décidé d'afficher la haine de Dieu contre des malfaiteurs, et la colère de Dieu contre les autres, en disant, voilà, Dieu a de la haine pour cela, et Dieu est en colère contre cela. Ça, c'était leur message. Alors, comme projet de marketing, c'est un peu atypique, il faut l'avouer. Alors, pourquoi est-ce que nous, ici à LifePoint, nous ne faisons pas la même chose? Je ne suis pas en train de suggérer qu'on fait la même chose. Mais je pose la question, pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas ça? Parce que, pas de pancarte, non, parce que nous voulons être fidèles à la Bible. Nous voulons être fidèles à la Bible. Et oui, la Bible dit que Dieu est en colère et Dieu a de la haine pour le péché. Dieu déteste le péché, Dieu déteste le mal. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu est. Ce n'est pas la seule chose que la Bible dit. D'ailleurs, si on regarde attentivement la Bible, on voit combien Dieu est miséricordieux et bon. Et combien cette vérité-là est mise en avant. De sorte qu'en fait, on comprend qu'il y a une différence en Dieu où il a envie d'être miséricordieux. Il a soif d'être miséricordieux. Il se réjouit de pouvoir être bon. Mais quand il punit, c'est un peu à contre-cœur, si je peux dire ça comme ça. Il n'a pas vraiment envie. Il le fait parce qu'il est juste, entièrement juste. Mais voici ce que dit la Bible en Daniel 9, verset 9. C'était un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui donnent du poids à cette pensée sur Dieu. Voici ce que dit Daniel. Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. Michée 7, verset 18 dit « Dieu désire faire miséricorde. Il prend plaisir à la bonté. » Alors si j'avais le choix de pancarte et de slogan que j'allais mettre sur une pancarte, probablement je ne choisirais pas « Dieu vous aime » parce que je pense que cette déclaration a déjà été faite. C'est devenu un peu banal de dire « voilà, Dieu vous aime ». Je ne dirais pas « Dieu a de la haine pour vous, Dieu est en colère contre vous ». Mais je dirais « Dieu désire faire pitié, faire miséricorde. Dieu désire faire miséricorde envers vous ». Vous voyez que ce slogan-là, en fait, montre la réalité. Nous avons besoin de miséricorde. Nous sommes perdus sans lui. Nous sommes contre Dieu. Nous ne allons pas en sortir nous-mêmes. En même temps, ça montre le caractère de Dieu, bienveillant. Il veut nous récupérer, il veut nous pardonner, il veut nous sauver. C'est à nous de venir vers ce Dieu avec cette attente. Alors, promettez-moi que vous allez revenir la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va entendre comment Dieu pourvoit cette solution pour qu'il puisse être à la fois juste et miséricordieux envers nous. Et si vous ne pouvez pas promettre que vous allez revenir la semaine prochaine, eh bien, promettez-moi que vous allez lire les versets suivants en Romains 3 cet après-midi, et vous verrez comment c'est décrit, que Jésus-Christ est celui que Dieu a nommé, son propre Fils qu'il a donné, afin que nos péchés puissent être enlevés et que nous puissions être réellement justes, d'une nouvelle justice qui n'est pas faite par nous-mêmes, fabriquée par nous-mêmes, mais accordée volontairement, délibérément, gratuitement par Dieu, juste devant Dieu. Quelle miséricorde! Mais pour le moment, on n'est pas encore la semaine prochaine. On reviendra à ça la semaine prochaine et on se réjouira. Mais pour le moment, il faut arrêter de vous plaindre de la justice de Dieu. Arrêtons de nous plaindre en disant « Ah, c'est dur que Dieu est juste, c'est dur que Dieu va nous punir ». Non, c'est tout à fait juste, la justice de Dieu. Son verdict est vrai. Dieu doit être reconnu comme vrai dans ses jugements, dans ses paroles. Arrêtez donc de vous excuser ou de minimiser vos fautes et votre mal devant Dieu. On a tous tendance à faire ça, à dire « Ouais, je ne suis pas si mal que ça, je ne suis pas Epstein ». Je ne suis pas Einstein non plus, je ne suis pas Epstein. Je ne suis pas un pédophile. Voilà, moi je vais bien. Mais non, nous avons nos propres fautes devant Dieu. Nous avons tous été coupables. Nous sommes tous injustes. Et arrêtez de dire que quelques autres personnes sont bonnes. Les autres sont bons. Vous savez, quand je dis que quelqu'un est un homme de bien, je suis en fait en train de me hisser à son niveau, comme quelqu'un qui peut bien évaluer le bien des gens. Lui, c'est un homme bien, un homme de valeur, un homme noble. Je suis en train de dire ça de moi-même. On doit arrêter de dire ça. Quand en fait, la Bible dit que personne n'est bon ni juste, on a compris ça maintenant, mais plutôt chercher à recevoir le pardon complet de Dieu. Je vais inviter le groupe devant pour un chant. Et pendant qu'il s'approche, nous allons prier. Je vais prier pour nous. Notre Dieu, nous ne voulons pas nous plaindre de ta justice. Tu es juste et c'est une qualité. Tu es juste et vrai. Et en même temps, nous reconnaissons chez nous que nous sommes pécheurs. Nous sommes sans excuse. Alors nous te louons parce que tu es miséricordieux et nous te demandons simplement aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un nouveau chant maintenant. C'est un chant qu'on a mis dans notre groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans notre groupe WhatsApp, vous avez la possibilité de le scanner ici avec le code QR ou près de l'ascenseur. Mais c'est un nouveau chant qui nous permet de l'exprimer devant Dieu, ces réalités dont nous avons entendu parler ce matin. D'une part, oui, nous sommes pécheurs devant Dieu. Mais aussi, nous pouvons faire appel à la pitié de Dieu et sa miséricorde envers nous en Jésus-Christ. Et donc ce chant est un chant heureux, un chant qu'on peut chanter avec confiance, quand nous savons que Dieu est miséricordieux et juste. Levons-nous pour chanter ce chant.